Merci Seigneur. Je voulais prendre ce temps pour remercier le Seigneur pour cette grâce qui m'a donné de venir partager le message avec vous ce soir aussi pour prendre cette opportunité. Père, que ton temps béni, que ton temps s'est levé, Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Conduis-nous, conduis-moi, Seigneur, que c'est ta parole qui soit à travers ma bouche, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer le thème qu'on a commencé la fois passée. Comment faire face. Aujourd'hui, ce sera comment faire face aux situations qui semblent qui s'en est pas bougé. Notre thème principal, c'est comment combattre tes batailles. Comment combattre tes batailles. On a un peu élaboré ça la dernière fois. Aujourd'hui, on va plus se focaliser, en fait, sur des cas qui semblent être impossibles. Sur des situations qui durent et qui durent et qui durent. C'est-à-dire qui prennent ces situations qui prennent du temps. Des situations. En fait, qui semble ne pas bouger, qui semble ne pas aboutir, des situations où on ne voit pas la fin du tunnel. C'est comme si on marche, on marche, on marche, on marche, mais on ne voit pas l'arrivée. Et souvent, on se demande, mais pourquoi continuer? Pourquoi continuer quand on a fait des pas depuis des années, mais on ne voit pas l'arrivée? Et c'est comme s'il n'y a pas de changement. C'est comme si ça ne change pas. La situation n'avance pas. Donc, je dis pour la grâce de Dieu, on va se focaliser sur ce genre de situation. C'est comme si on était au milieu de la mer, face au tourbillon, et on rame, et on rame, et on rame. On se rend compte qu'on ne voit pas la terre, on ne voit pas l'arrivée. On est souvent découragé. Et par la grâce de Dieu, va nous conduire à comment surmonter ces situations. Parce que souvent, ces situations, ce n'est pas beaucoup enseigné. On en parle parce que ce n'est pas un thème qui est vraiment l'objet de beaucoup d'attention. Car beaucoup pensent que les vrais chrétiens ne doivent pas faire face aux situations qui durent. Nous sommes maintenant dans une culture où, en fait, si tu es dans ces situations, c'est comme si c'est toi le problème. C'est comme si tu as péché. C'est comme si tu as fait quelque chose contre Dieu. C'est comme si tu as fâché Dieu. Donc, c'est-à-dire, on s'est dit que les vrais chrétiens, les situations ne doivent pas durer. Que ce n'est pas public. Donc, on ne s'attarde pas trop dans ceci. Donc, ce n'est pas vraiment. C'est souvent qu'on se trouve à l'intérieur, on est dans cette situation, on pense que c'est peut-être que c'est nous le problème. On pense que c'est à cause de nous, on se repent, on se repent, on se repent. Mais aujourd'hui, on va toucher un peu cela. Et souvent, on ne persévère même pas beaucoup parce qu'on n'a pas appris à persévérer. On ne reste pas trop dans la persévérance. Mais il y a des cas où, en fait, c'est le Seigneur qui nous envoie dans cette situation. Le Seigneur qui nous a mis là-bas. Ce n'est pas juste nous, ce n'est pas le péché en fait. C'est le Seigneur qui a autorisé cela, qui a permis cela. Car que dirons-nous de Job? Vous connaissez bien l'histoire de Job. Vous connaissez bien l'histoire dans Luc 18, la femme veuve qui a passé du temps pour réclamer sa justice. On va se focaliser sur cette persévérance. Donc, combien de fois on doit cogner? Est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est deux fois? On doit cogner jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. On doit ramer jusqu'à l'arrivée. Dans notre texte de base, c'est dans Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Mais si on rentre un peu pour un peu comprendre comment Marc nous amène dans ces spécifiques versets, nous amène un peu dans cette session. Le verset 1 à 6 nous parle que Jésus-Christ est allé à Nazareth. Il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Et si on va de 7 à 17, de 7 à 13, Jésus-Christ envoie les disciples en mission. Donc les disciples, ils sont des apôtres. On les envoie en mission, ils reviennent après, ils ont fait des miracles, ils ont chassé les démons. Donc Dieu les a utilisés puissamment. Donc en fait, ils ont des victoires. Et juste avant notre verset principal, il y a un miracle qui se passe, un miracle puissant qui se passe, la multiplication des pains. On peut parler de ça plus tard. C'est là maintenant qu'on va entrer dans notre verset de base. Mais arrêtons un peu sur la multiplication. La multiplication, vous voyez, ici, il y a deux miracles. Il y a multiplication, il y a notre verset principal. Et cette multiplication, c'est un peu comme une préparation. Comme si le Seigneur, en fait, préparait les disciples à ce qui devait venir. Il préparait les disciples à un obstacle qui devait venir. Parce que là, dans cette multiplication, Jésus-Christ était avec les disciples. Jésus-Christ a fait des miracles. Il était dans le désert. Pendant que les temps étaient d'expliquer ce qui s'est passé, les disciples expliquaient ce qui s'était passé pendant quand Jésus les a envoyés, la foule est venue. Jésus les a enseignés. Et après, il a fait la multiplication des pains. Et ici, ça montre la provision, ça révèle en fait un caractère de Dieu. Que Dieu pourvoit, que Dieu est tout puissant et qu'il pourvoit. Dans la mission principale, les missions, ils ont chassé les démons. Ici, ça révèle que Dieu est tout puissant, que Dieu pourvoit. Et pour les préparer maintenant à cette situation-là qui vont se passer, les situations pour eux qui vont sembler impossibles, les situations qui seront difficiles pour eux de résoudre. Et ça, il est bien remarqué dans nos vies, souvent même qu'on arrive dans des situations difficiles, avant même qu'on arrive dans des situations où c'est vraiment, vraiment, vraiment dur, souvent le Seigneur nous prépare. Souvent, le Seigneur nous prépare. On n'entre pas juste comme ça en cascade. Souvent, il y a une préparation. Si on prend ma attention, une préparation. Dernièrement, on a parlé de fois d'une parole que le Seigneur nous donne dans cette situation. Donc, entrons maintenant dans Marc 6:45, où le Seigneur va nous montrer, va nous révéler une situation laquelle une situation qui semble être impossible, mais par sa grâce, comme il a fait pour résoudre cette situation. Et cette situation, un peu, ça sera comme un miroir dans lequel on va aussi voir nos propres situations qui semblent être impossibles. Et par la grâce, Dieu va nous aider à comprendre et à utiliser ces outils pour être victorieux dans nos situations. Et comment mener un combat victorieux dans ces situations. Et le verset 45, on va lire que ça dit ceci. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Donc ici, on souligne un point important que Jésus en fait les a forcés à partir. Jésus les a forcés à partir à Bethsaïda. Et il voulait en fait le mec qui fasse une situation. Donc c'était une action qu'il a fait pas exprès. Ce n'était pas un hasard. La Bible dit ici, forcé de partir. Donc en fait, il voulait qu'il passe dans cette situation pour les enseigner quelque chose. Ce n'est pas que les disciples avaient péché. Ce n'est pas que les disciples avaient fait quelque chose qui avait énervé Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ a décidé. Qu'il y a quelque chose qu'ils doivent comprendre par expérience. Il les a forcés à aller, à les mettre face à cette situation. Et peut-être qu'il y a un Bethsaïda dans lequel Dieu nous envoie. Peut-être qu'il y a une direction, il y a un endroit à laquelle Dieu nous a forcés à aller. Que c'est pas facultatif. Qu'en fait, cette situation-là, ça vient de Dieu, que c'est lui qui a permis. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est pas parce qu'on a. En fait, que c'est Dieu lui-même qui a autorisé cette situation. Je vais prendre l'exemple de Ruth. Je vais prendre l'exemple de Job. On se rappelle encore de Job. Je vais prendre l'exemple de Jonas. On va parler en profondeur. Vous connaissez l'histoire. C'est Dieu qui a autorisé cette situation. Ce n'est pas que c'est eux qui étaient à la source. C'est Dieu qui a permis que cette situation arrive. Donc, il faut discerner cela. Discerner cela. Il y a cette situation difficile, en fait, que Dieu veut qu'on passe, parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Et verset 46. Quand il leur envoya, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et si Jésus-Christ renvoie la foule, et s'il vont à la nage, il prend le bac, il part sur le lac, et Jésus-Christ va sur la montagne pour prier. Verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Ici, on parle du soir. Donc, le soir est arrivé. Si on fait un peu attention à la distance ici, le soir est là, Jésus-Christ est toujours sur la terre et la barque est au milieu de la mer. Verset 48. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent l'était contraire. Donc, c'est un peu intéressant parce qu'on va se poser une question en fait. C'est le soir, il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Les disciples sont sûrement loués au milieu de la, au milieu du lac, donc très éloignés, et il fait sombre. Et on ne voit pas dans la nuit. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus-Christ les a vus. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Pourtant, Jésus-Christ n'était pas avec eux. Jésus-Christ était éloigné sur la terre, mais sur la terre, Jésus-Christ a vu les problèmes. Waouh! Waouh! Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est dans l'esprit. Ça, c'est par le Saint-Esprit. Dans la situation que les disciples étaient en train de souffrir, que les disciples étaient en train de sûrement se demander, mais où est Jésus? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Sûrement qu'ils se disaient, mais comment il nous, c'est lui qui nous a forcés à aller? Il y a un tourbillon. Il a dit qu'il devait venir. Si vous voulez ça, il a dit qu'il devait venir. Mais il n'est pas là. Ah, est-ce que ça nous est arrivé, bien-aimé? Est-ce que ça nous est arrivé? En fait, que c'est Dieu qui nous dit, il ne faut pas archer là-bas. Et on va, on se rend compte que c'est difficile. On se rend compte que c'est tellement, qu'on nous voit, on se demande, mais est-ce que c'est même Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est même Dieu qui m'a envoyé? On se demande cela. Et si c'est lui, mais pourquoi? Mais pour, il est où même? Mais pourquoi il ne répond pas à mes prières? Pourtant, avant que j'entrais, il répondait. Les disciples pensaient de la même manière. Où est Jésus? C'est lui qui nous a envoyé. Où est Jésus? Mais par la grâce de Dieu, Marc un peu zoomé. Ne pas montrer la perspective des disciples. Il a montré la perspective de Jésus-Christ. Il a montré qu'en fait, que Jésus-Christ les voyait. Jésus-Christ savait ce qui se passait dans cette situation. Bien-aimé, dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus-Christ sait ce qui se passe. Jésus-Christ voit votre situation. Il vous voit en train de ramer, il vous voit en train de persévérer, il vous voit en train de courir, il vous voit dans la souffrance, il voit votre situation. Avec les disciples, il n'était pas avec eux, il a vu sur terre. Et là maintenant, il a son esprit à nous. Il est dans les lieux célestes, il est avec le Père. Il voit ce qui se passe. S'il nous a envoyés dans les situations dans lesquelles on fait face, il voit notre difficulté. Lisons encore 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, c'est bien. Jésus-Christ a vu. Il a observé. Il est au courant. Maintenant, nous savons que Jésus-Christ est au courant de notre situation. Nous savons que le problème A, B, C, D, Jésus-Christ est au courant. Que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit la maison, que ce soit une nouvelle voiture, Jésus-Christ sait. Il sait. Il sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est souvent ça qui est important. Ok, Jésus qui sait qu'est-ce que lui va faire, qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Donc face à ces situations qui ne bougent pas, on sait que Jésus qui sait que c'est dans ces situations. Voilà ce qu'il va faire ici. Continue à lire le verset 48. À la quatrième veillée de la nuit, quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. Bien-aimés, c'est le soir. Regardez, c'est le soir que Jésus les a vus. Environ vers le soir que Jésus les a vus. Les disciples étaient en train de ramer. Quand est-ce qu'il a décidé de partir les voir? À la quatrième La Bible dit à la quatrième heure. Quatrième veillée. Vers la quatrième veillée. La quatrième veillée, en fait, quatrième cadran, c'est en fait entre 3 et 6 heures. Parce que le premier, c'est 6 heures, 9 heures. Donc, il y a ce cadran, il y a le deuxième. Donc, le quatrième, c'est vers la fin. C'est quand on transitionne vers le matin. C'est presque le matin. Donc, Jésus-Christ, il a fait par esprit d'attendre tout ce temps pour aller voir les disciples. Waouh! Les disciples souffraient face à la tempête. C'est moi qui personne ne veut dire, oh, peut-être qu'on va mourir. Parce qu'ils ont dit la même chose, on a vu des normands dans Marc 4. Ils ont dit, mais est-ce qu'on va périr? Est-ce qu'on va laisser périr? Mais c'est ici Marc 6. Si je sens similaire, le tourbillon s'élève. Il avait beaucoup, la Bible dit, verset 42, beaucoup de peine. N'a pas eu la peine, beaucoup de peine à ramener. Donc Jésus-Christ les voit dans beaucoup de peine et il attend tout ce temps. Une personne devait penser que Jésus-Christ devait aller là maintenant. Jésus-Christ est avec eux. Jésus-Christ en chien, il est là. Il voit ses disciples souffrir. Il devait partir là, 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 là. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Jésus-Christ était là physiquement sur la terre. Waouh! Il a attendu jusqu'à environ 4 heures du matin. Jusqu'à environ 4 heures du matin. Donc si on prend peut-être de 19 heures ou de 20 heures à 4 heures. Waouh, peut-être plus de 12 heures. Mais pourquoi Jésus-Christ a fait cela? Pourquoi Jésus-Christ a fait cela? Avant même d'arriver, pourquoi? On doit se dire une chose. La Bible dit qu'il est arrivé. Il alla vers eux marchant sur la terre. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est jamais en retard. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Il peut prendre du temps. Il peut arriver à la quatrième heure. Je ne sais pas quelle est votre quatrième heure. Si c'est un mois, si c'est un an, si c'est deux ans, si c'est cinq ans, si c'est dix ans. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ n'est jamais en retard. Avec les disciples n'étaient pas en retard. Dans notre cas, il ne sera pas en retard. Donc, si vous demandez où est Jésus-Christ dans votre situation, pourquoi la situation ne bouge pas, pourquoi la situation n'avance pas, il arrive. Tenez bon comme les disciples ont tenu bon. Jésus-Christ ici, à travers cette situation, parce que Jésus-Christ, il est Dieu, à travers cela, il nous révèle quelque chose. Il nous révèle un message. La persévérance. Il faut persévérer. Nous, on doit pas être des chrétiens qui sont fast-food, que c'est maintenant, maintenant. C'est pas ça que la Bible dit. C'est pas ça le blueprint, le template d'un chrétien, d'un disciple. Ici, Jésus-Christ nous dit qu'il faut persévérer. Donc, Jésus-Christ les a vus dans la souffrance, les a vus en train d'essayer de se battre contre les vents, n'est pas par les aider. Peut-être qu'il s'est fortifié, il s'est disposé à aider d'une manière différente, mais souvent ce n'est pas la manière dont on s'attend. J'en peut-être face aux situations, dans ces situations qui semblent impossibles, on pense que Jésus-Christ n'est pas là, on pense qu'il n'est pas présent, on pense qu'il n'est pas là parce qu'il ne résout pas la situation dans laquelle on veut qu'elle soit résolue. Pourtant, son esprit est là. Pourtant, son esprit nous conforte. La Bible dit qu'il nous conforte. Il conforte les cœurs qui sont abattus. Pourtant, son esprit nous fortifie. Pourtant, son esprit nous donne la joie. Pourtant, par sa parole, il nous donne la joie. Donc, peut-être, la montagne a peut-être bougé. Donc, peut-être, vous n'êtes pas arrivé à la rive. Peut-être, vous êtes toujours dans les tourbillons. Dans ces tourbillons, il est avec vous. Dans ces tourbillons, il y a sa joie. Dans ces tourbillons, il y a sa paix. Il y a sa paix dans ces situations. Donc même si ce n'est pas encore terminé, bien-aimé, Jésus-Christ est là. Donc ce n'est pas parce que nous avons des difficultés maintenant qu'il doit venir maintenant. Et souvent, beaucoup de chrétiens pensent de cette manière. Que si un chrétien a un problème, maintenant, ça doit être résolu. Maintenant. Est-ce qu'il y a eu un temps à laquelle Dieu est venu rendre visite à Job? Souvent, Dieu a son temps. Son temps. Son temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les situations maintenant que Dieu doit venir maintenant. Jésus-Christ a attendu. On est parti voir les disciples. Et vous rappelez-vous toujours, ce n'est pas parce qu'ils ont fait une erreur Pas parce qu'ils ont désobéi le Seigneur. Jésus les a forcés. Donc, en fait, c'était la volonté de Dieu d'être dans cette situation. Souvent, on se dit, oh, c'est pas la volonté de Dieu. Il y a des cas, en fait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, vous imaginez un peu la situation. Dans la volonté de Dieu, qu'on soit dans une situation difficile, et qu'on est dans cette situation difficile, Jésus-Christ n'arrive pas à l'instant. Il y a une persévérance. Il y a un processus. Il y a quelque chose que Jésus-Christ veut qu'on comprenne. Il y a quelque chose que Jésus-Christ veut nous révéler. Donc, si vous avez été dans une situation, vous savez, Dieu vous a envoyé là-bas. Peut-être vous êtes parti évangéliser. Et vous êtes arrivé, vous avez eu un combat pas possible. Maintenant, vous rentrez, il y a des combats que vous avez faits. Vous avez prié pour quelqu'un. Et après, vous savez que Dieu vous a envoyé pour prier pour cette personne. Vous partez prier. Après la prière, c'est même vous qui priez encore plus pour vous-même. Donc, c'est encore plus difficile. C'est Dieu qui vous a mis là. Et maintenant, votre propre problème. Souvent, même, vous avez résolu le problème de la personne, mais maintenant, c'est votre propre problème. Et Dieu prend son temps. Dieu, il a un temps spécifique. Donc, c'est Dieu qui vous a envoyé. Et maintenant, vous êtes coincé dans des difficultés. Peut-être rien ne bouge. Peut-être que vous n'y parvenez pas. Bien-aimés, accrochez-vous à Jésus-Christ. N'abandonnez pas. Il vous voit. Il voit votre problème de la même manière qu'il a vu les disciples. Il est avec vous. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ est arrivé? Pourquoi il est arrivé? Mais pourquoi il est arrivé à cette heure? En fait, ce que vous dites, c'est en fait, il y a eu la persévérance des disciples. La Bible mentionne qu'ils étaient en train de ramer. Donc, ils n'étaient pas en train de s'asseoir, ils n'étaient pas en train d'abandonner. Jésus-Christ est arrivé à un temps précis et les disciples étaient en train de ramer. Les apôtres étaient en train de ramer. Ils étaient dans la persévérance. Est-ce que nous restons dans la persévérance? Et que nous arrêtons la première heure? À la première veillée. Et que c'est la deuxième veillée. Et que c'est la troisième veillée. On doit arriver jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Donc, on ne doit pas abandonner. Beaucoup essaient. Première veillée, ils sont fatigués. Ils cherchent d'autres solutions. Ils cherchent d'autres solutions. Ils tapent à gauche, ils tapent à droite. Ils essaient le monde. Ils essaient la sorcellerie. Ils essaient tout ce qui passe. Pas de foi solide. Pas de persévérance. Pas de persévérance. Ils se disent qu'en fait, mais Dieu les a abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonnés. Est-ce que j'ai abandonné les disciples? Jésus-Christ voyait. Il a vu ce qui se passe. Jésus-Christ ne les a pas abandonnés. Il voit votre situation. Il voit. Non, il ne vous a pas abandonné. Il est avec vous. Donc, ceci demande, ceci souligne la persévérance. Face aux situations qui ne bougent pas, il faut la persévérance. Regardez l'histoire de la femme. La femme qui était veuve dans Luc 18. Je vais lire Luc 18, verset 8. Ça dit ceci. Vous connaissez bien ce que c'est passé. Avant, il y avait un juge qui était vraiment méchant, il n'aime pas peur de Dieu. Et il n'a pas voulu donner justice à la femme. La femme a persévéré. Et à la fin, parce qu'elle du juge était fatiguée, elle a donné justice à la femme. Mais on va partir au verset 8. Ça dit ceci. Je vous le dis, Jésus qui se parle après cette parabole. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Ici, il parle de Dieu, que Dieu fera que si en fait un juge injuste a fait justice à cette femme veuve, et Dieu, comment il va faire? Il dit que Dieu le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question que Jésus-Christ demande. Est-ce que quand Jésus-Christ va revenir, il va trouver la foi? On peut un peu extraire l'idée que Jésus-Christ est en train de dire, pour un peu comparer avec la situation dans laquelle les disciples se passent, pour un peu comprendre notre situation. Ce Dieu dit qu'il va quitter ses enfants. Dieu dit que dans votre situation, vous serez vainqueur. Quand votre situation dans laquelle vous trouvez, que face à ce tourbillon, face à ces tornades, face à ces montagnes, Dieu dit que vous serez victorieux.
J'ai dit que vous serez acquitté. Mais il y a un mais. Est-ce qu'à son temps, le temps qu'il a prévu pour la délivrance, le temps qu'il a prévu pour la restauration, est-ce qu'il va vous trouver avec la foi? Est-ce qu'il va vous trouver de la persévérance? Est-ce qu'il va vous trouver en train de ramer? Est-ce qu'il va vous trouver en train de persévérer? Dieu a trouvé les disciples en train de ramer. Ils se battaient, ils persévéraient. Donc face à notre situation, trouveras-tu la foi? Êtes-vous, bien-aimé, dans la persévérance? Êtes-vous dans la patience ou dans l'abandon? À qui les disciples n'ont pas abandonné? L'ennemi vous donnera des choses rapides. Si c'est pour les choses rapides, oui, l'ennemi peut vous donner cela. Vous pouvez, si vous quittez, mais ça conduit à votre défaite. Ça conduit à votre propre défaite. Elle ne conduit pas à la vie. Quand Jean 10 dit encore qu'il est venu égorger, détruire, voler les choses rapides. Mais la soumission est en Jésus-Christ. Ça peut prendre du temps. Avec l'exemple des disciples, il a montré que ça prend du temps, que souvent, il y a des situations qui prennent du temps. Il faut persévérer. Jésus-Christ sera là. Il est là, il vous donne cette victoire. Donc, comme chrétien, comme disciple, c'est une idée qu'on a vraiment captée. Parce que ça fait partie aussi de notre enfin, journey, de notre template. On va continuer verset 48. La Bible dit, et il voulait les dépasser. Ça, c'est la suite. Il voulait les dépasser. Donc, on va encore tout relire pour avoir le sens de ce que ça dit. Verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent les était contraire. À la quatrième veillée de la nuit environ, il alla vers eux, marcha sur la mer, et il voulait les dépasser. Passer. Et quand la Bible parle de qui voulait les dépasser, en fait, ça nous rappelle à ce qui s'est passé avec Moïse. Ça veut dire que quand Dieu voulait, en fait, Jésus-Christ en fait, voulait se révéler à eux. Donc, Jésus-Christ était sur le point de passer de côté. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ, quand Dieu a voulu se montrer à Dieu, quand Dieu a voulu se montrer à Moïse, c'est la même manière, c'est le même thème qui est utilisé ici. Donc, Jésus-Christ voulait se révéler aux disciples. Il était sur le point de se révéler à Dieu. Ça, c'est dans Exode 33, verset 22, ou 34, verset 6. Vous allez voir ces mêmes expressions. Quand Jésus arrive, il veut se révéler à eux. Donc, face à cette situation, vous allez voir que Dieu va se révéler à nous. Dieu, vous avez la situation de Job. Job était dans, il suivait ce template, il suivait cela, de la persévérance. Dieu a ordonné cela. Il a persévéré. À la fin, il a connu Dieu d'une manière qu'il n'a jamais connue avant. Et souvent, quand on arrive dans ces sujets de persévérance, c'est une opportunité pour connaître encore Dieu. Et pour une opportunité pour créer encore cette relation, une relation plus profonde avec le Seigneur, parce qu'on compte sur lui, parce qu'il n'y a que lui. L'autre jour, c'est lui, la nuit, c'est lui, tout ce qu'on fait, c'est lui. Ça crée encore cette intimité avec le Seigneur. Et il se révèle à nous, à une autre dimension que sur le marché, que si on était pas dans cette situation-là, on ne peut pas le connaître. Bien aimé, il y a des révélations que vous allez avoir le Seigneur, mais que vous avez déjà eues. Dans ces situations qu'on n'aurait pas pu avoir, oh, ces situations. Parce que vous voyez maintenant la face du Seigneur. On va partir au verset 49 et 50. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ici encore, Jésus-Christ se révèle encore comme l'Éternel. Il se révèle encore comme le Alpha et l'Oméga. Quand il dit que c'est moi, En fait, ça veut aussi, ça veut dire je suis, I am. La même manière que Dieu s'est révélé à Moïse à Exode 3. Il a dit I am, qu'il a demandé, mais qui? Parce que si les Israélites demandent qui lui a envoyé, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu dit, dis-le que je suis le Dieu de I am. Et la même manière quand Jésus-Christ a dit que c'est moi, il voulait, c'est seulement qu'il se révéler comme Dieu. Dans nos situations, Dieu veut aussi se révéler. Dieu veut se révéler. Nous montrons notre image. Donc, on va continuer. Donc, ceci nous amène, en fait, à garder une foi. Donc, quand on extrait le message de cette situation, donc, la manière quand Jésus-Christ entre, la manière dont Jésus-Christ est arrivé, c'est qu'il y a une foi qui doit être active. Pas seulement une foi, mais une foi qui doit être active. Bien aimé, ne soyez pas à l'aise dans votre tempête. Il y a certains qui sont à l'aise, qui sont habitués, qui n'oublient même que en fait, cette tempête, ce n'est pas pour toujours, que c'est passager. Qu'il y a un endroit Bethesda qui doit arriver, en fait, qui doit arriver quelque part. Mais ils oublient Bethesda, ils oublient qu'ils doivent arriver quelque part. Donc, ils sont de la tempête. Pourquoi oublient cela? Beaucoup oublient. Selon le cas de Jacob, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ. On voit le cas de Job. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Luc 18, qu'est-ce qu'ils ont en commun? La foi. Ils ont une foi qui continue à chercher la liberté, qui continue à chercher la délivrance, qui continue à chercher le breakthrough. Jacob a dit que je ne te laisse pas tant que tu me bénis. Parce que son frère l'attendait. Et que celui qui a combattu avec Dieu qui a gagné. Donc, c'est pas juste qu'ils étaient de la tempête, ils se sont assis là, ils ont commencé à faire, à parler, à dire des choses. Ok, Dieu est grand, c'est vrai, mais il faut une foi qui va vous pousser à sortir. Vous propulser. Que quand l'heure arrive, vous propulser. C'est une foi qui est active. Il y a beaucoup qui sont fatigués et qui se contentent. Vous vous rappelez celui qui était à la piscine de Bethesda? Vous connaissez l'histoire? Celui qui lui demande s'il veut être guéri, il donne des gestures, il donne des excuses. Et si on peut dans une situation où Jésus, c'est-à-dire, il y a l'opportunité maintenant pour sortir. Le temps est presque arrivé, le temps est déjà là, le temps de la délivrance, le temps que la porte s'ouvre là, dès qu'on veut. Et notre réponse, ah non, c'est très compliqué. Cette situation est très compliquée, c'est très compliqué. On est juste assis. On peut voir les eaux traverser. Les eaux étaient entrées dans la délivrance. Parce qu'il y a cette mentalité, on est déjà trop, on a été dans cette situation pendant longtemps, on est déjà, on se contente de cela. On dit que non, les prières, ça ne marche pas. Oh, on a prié plusieurs fois pour moi, c'est ça, mais ça ne passe plus. Il faut une dose qui est plus profonde. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi n'est pas active. C'est une foi qui est morte. C'est une foi qui n'est pas active. On doit être présent pour ne pas rater ce moment à laquelle, à cette quatrième veille à laquelle Jésus-Christ doit arriver. Donc, quand Jésus-Christ veut passer, on ne doit pas le laisser. Il doit nous trouver en train de ramer, comme les disciples ont ramé. Vous rappelez l'histoire de la femme qui a perdu le sang? Une foi violente. Vous rappelez de Bartimée? Une foi violente. Qu'on a voulu le faire taire, mais c'est là qu'il a encore crié plus fort. Dans ces situations qui sont difficiles, souvent on peut être fatigué, souvent la foi peut être fatiguée, mais bien aimé, cette foi d'être ravivée, cette foi d'être violente, quand le temps arrive, elle nous propulse vers l'arrivée. Donc gardons cette foi, gardons ce feu. Ça peut être dur, et c'est dur. Comme Jésus l'a dit, il y avait beaucoup de difficultés. Mais continuons à ramer. Et cela demande aussi un cœur humble, cela demande l'humilité. On doit avoir un cœur qui est humble. continuer, on doit continuer à prier. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit renouveler la foi. On doit continuer à lire la parole de Dieu. On n'a pas pensé que notre problème est très, un cas qui est tellement pire que c'est désespéré. On n'a pas pensé que notre cas est désespéré. Oh. En fait, Jésus-Christ, il est spécialiste dans les cas désespérés. Il est spécialiste. Si vous pensez que votre cas est désespéré, bien-aimé, Jésus-Christ, il est spécialiste. Mais en fait, sa spécialité, c'est ce cas-là. Donc, gardons cette foi. Ne disons pas, oh non. Comme on va attendre l'archibishop. Quel est le temps de prière? Oh non, ce sont les pasteurs adjoints, ce sont les pasteurs juniors, ce sont les pasteurs premier niveau. On attend l'archibishop. Mais c'est là qu'on limite le Seigneur. C'est là qu'on limite, qu'on néglige la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir une foi, la foi d'un enfant. Et ça demande qu'on soit humble face à ces situations. Verset 51, on en est terminé. On va dire cela. Puis, il monta avec eux dans la barque. Le vent cessa. Il fut en eux-mêmes tout stupéfié et rempli d'étonnement. Donc, quand Jésus-Christ est arrivé, le vent a cessé. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de la délivrance arrive, quand Dieu entre en scène, le vent s'arrête, l'ennemi lâche, les prisons tombent, les chaînes se brisent. Quand le Saint-Esprit est descendu le troisième jour pour prendre Jésus-Christ, oh, l'enfer était paralysé, le séjour de moi était paralysé. Jésus-Christ est sorti, les chaînes étaient brisées, il a pris les clés. Donc, il entre quand c'est le temps dans notre vie, bien-aimé. Le vent cesse. C'est là qu'on voit maintenant le bout du tunnel. Il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on soit persévérant et qu'on n'abandonne pas tant qu'on ne voit pas cette victoire. De la même manière que Jésus-Christ a vu les disciples en train de lutter, garde une foi violente. Donc, bien aimé, ta percée est proche. Que ce soit le vent est sur le point de s'arrêter. Garde les yeux sur Jésus-Christ. Aie une foi active, une foi violente. On va conclure avec Marc 6, on va lire le verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. On va conclure avec ceci. Dans ce cas-ci, l'implication, si ça veut dire qu'en fait, ses disciples n'avaient pas en fait compris ce que Jésus-Christ voulait leur dire. Ils n'avaient pas compris le message de Jésus-Christ à travers ses miracles. On dit que le cœur était dur, donc c'était difficile pour eux de digérer ces informations. Mais ici, Marc parle de deux miracles, le pain, le fait qu'ils ont se sauvé, Jésus-Christ a marché sur l'eau. Ici, il dit même le premier message, ils n'ont pas compris. Peut-être le premier message, le premier miracle, les préparer pour cette situation difficile. Donc, le miracle des pains, ce qui s'est passé avant, ça devait l'apprendre que Dieu a cette puissance pour les délivrer, quelles que soient les circonstances. Parce que là-bas, ils étaient en manque, Dieu a pourvu. De la même manière dont, face au tourbillon, ils étaient en difficulté. Les réactions étaient de comprendre que Jésus-Christ veut ce pouvoir. Donc, ils avaient oublié le miracle des pains. Ils n'avaient pas pu procéder cela. Qu'ils étaient de la barque. Si vous lisez Marc 8, 14 à 21, on ne va pas lire. Ça va vous donner une explication. Comment Jésus souligne que ses disciples n'avaient pas compris. On va aller maintenant dans notre cas. Donc, beaucoup d'entre nous, Dieu a, si vous voyez bien, Dieu a déployé sa puissance dans votre vie à plusieurs reprises. Vous pouvez vous asseoir, les témoignages sont là. Plusieurs fois, il a manifesté sa puissance. Les cacés, c'était fini. Vous avez vu la main de Dieu. Vous avez vu comment il s'est manifesté. Mais souvent, on oublie cela. Souvent, on oublie ce qu'il a fait dans le passé. Souvent, on oublie de reconnaître l'identité de Jésus-Christ à travers ses miracles. Souvent, on oublie de procéder et d'établir cette foi en Jésus-Christ à travers ce qu'il a fait. Parce que c'est comme des escaliers, c'est à travers cette foi, à travers cette expérience, à travers ces miracles, à travers ces victoires. C'est ça qui va nous propulser encore d'aller au niveau supérieur. Dans notre témoignage, notre ancien combat qui a révélé la grandeur de Dieu est déjà une victoire pour le prochain combat, même avant que ça ne commence. Dans cette situation qui semble être impossible, les victoires d'avant, les manières dont Dieu s'est déployé avant, bien aimé, c'est un ticket, c'est un reçu pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand Révélation Apocalypse 12, 11 le dit, nous a gagné par le sang de l'agneau, la parole, les témoignages. Les témoignages est puissant. Ce que Dieu a fait dans votre vie est puissant. Ce que Dieu a fait de la vie de vos frères et sœurs, quand vous écoutez ces témoignages, c'est puissant. Donc, rappelons-nous de cela. Bien-aimés, nous savons que le même Dieu qui est avec nous dans cette tempête, c'est le même Dieu qui nous a délivrés hier. C'est le même Dieu d'aujourd'hui et c'est le même Dieu qui nous délivrera de ces difficultés. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Amen, amen.